Connecté avec Orange Monnaie pour le transfert d'argent de la France vers la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, l'antenne vous appartient. Ce matin, nous attendons vos réactions sur Yahya Jammeh, l'un des chefs d'État africains les plus controversés. Il dirige la Gambie d'une main de fer, ses opposants sont emprisonnés, les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes sont harcelés, 60% de la population vit dans la pauvreté. Yahya Jammeh affirme guérir le sida, il est clairement homophobe, il a récemment annoncé le retrait de son pays de la Cour pénale internationale et après 22 ans de pouvoir, il brigue demain un cinquième mandat. Et sa réélection devrait être, disons-le, une formalité. Alors, quelle image avez-vous de Yahya Jammeh? En tout cas, il assure, lui, qu'il n'est aucunement affecté par les critiques des ONG. Quand on lui demande s'il est un dictateur, il répond « Eh bien, pour les Occidentaux qui sont habitués à des chefs d'État africains, béni oui, alors oui, à leurs yeux, je ne peux être qu'un dictateur et j'en suis fier. » On va consacrer la deuxième partie de cette émission à Yahya Jammeh, à la Gambie. On est à la veille, donc, de cette élection présidentielle. 33 9 693 693 93 70. Vous continuez évidemment à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je suis en train de lire en ce moment quelques-unes de vos réactions sur la page Facebook de l'émission. J'en citerai évidemment tout à l'heure quelques-unes pour alimenter le débat et la réflexion. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Et on va commencer avec Alejandro Alente, qui est le chef de service des sports des RFI. Bonjour Alejandro.
Bonjour Juan, bonjour
Merci
à tous.
Merci d'être avec nous. On a reçu une question football. Alors quand on a des questions football, c'est rarement technique. Hein. C'est toujours... Les affaires, et en voilà une autre qui secoue en ce moment Samuel Eto'o. Bonjour Amadou.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous êtes à Port-Gentil au Gabon.
Oui, je suis à Port-Gentil.
On vous écoute.
Ok, Juan, après Messi et Neymar, et récemment Samuel Eto'o qui vient d'être condamné par le fisc espagnol, qu'est-ce qui explique cette condamnation à répétition et quel est le club après toutes ces condamnations à répétition?
Oui, le Barça, puisqu'effectivement, tous ces joueurs qui figurent sur la liste de ceux qui ont des ennuis fiscaux sont tous passés par le FC Barcelone, Alejandro Valente, Samuel Eto'o depuis quelques jours, Neymar, Messi, Adriano, Alexis Sanchez. Que se passe-t-il au Barça? Pourquoi le Barça a-t-il autant de problèmes avec le fisc?
Alors, déjà d'abord, une petite correction par rapport à ce que notre ami dit. Il n'a pas été condamné. C'est le parquet général qui a demandé à la justice de le condamner, Eto'o. Donc, pour l'instant, il n'a pas été condamné.
On attend le verdict.
Il n'y a pas que des joueurs de Barcelone qui sont concernés par ce genre d'affaires, même s'il y en a beaucoup. Le cas Eto'o est un peu particulier. On va peut-être y revenir, mais disons qu'en règle générale, jusqu'à récemment en Espagne, il y avait la possibilité pour le joueur de football d'avoir deux contrats différents. Un qui est lié au club et sur lequel il payait les impôts normaux. Et puis, il avait la possibilité, pour ce qui est l'exploitation de leurs droits d'image, de créer des sociétés afin de pouvoir encaisser ses droits d'image avec un taux d'impôt beaucoup plus faible. Le dernier gouvernement Rajoy a estimé que ce système n'était pas bon et donc a cessé de reconnaître la validité de ce type de double imposition, ce qui fait que beaucoup de joueurs se sont trouvés un petit peu piégés. Soit ils n'ont pas été suffisamment vigilants, soit ils ont été mal conseillés. Donc ils sont souvent l'objet d'une réclamation rendue aux impôts parce qu'on ne reconnaît pas ces taux d'imposition plus faibles concernant leur partie droit d'image. Il y a beaucoup de joueurs de Barcelone, vous l'avez dit, mais il y a eu aussi, par exemple, au Real Madrid, Casillas, Raúl, Xavi Alonso, qui ont également eu ce genre de poursuites. Mais évidemment, les cas les plus médiatiques ont été ceux de Messi et Neymar, et plus récemment celui d'Eto'o, qui est un peu différent des autres.
Ouais, Messi, rappelons-le, qui a été condamné avec son père à 21 mois de prison et à près de 4 millions d'euros d'amende. Il a fait appel, hein, Lionel.
Absolument.
Messi. Neymar, lui, a été condamné à 2 ans de de prison et à 10 millions d'amende. Faut dire qu'en Espagne,
enfin, Neymar n'a pas encore été condamné. C'est-à-dire qu'on a ouvert, dans les cas de Messi comme dans les cas de Neymar, ils avaient bénéficié tous les deux d'un non-lieu. Et à la demande du parquet général, les juges ont été contraints de rouvrir les dossiers. Donc Messi a été condamné dans ce contexte-là. Et dans le cas de Neymar, c'est pareil. Il avait bénéficié d'un non-lieu et les dossiers ont été rouverts. Le juge a dit sous ordre du parquet général.
D'accord, c'est important de le préciser, effectivement. Concernant Samuel Eto'o, vous disiez que son cas était un peu particulier.
Oui, parce que déjà, à la différence de Neymar ou de Messi qui ont tout de suite accepté, comme on le fait souvent dans les affaires fiscales, de payer les sommes contestées plus l'amende imposée par le fisc. Eto'o n'a rien accepté du tout, n'a rien payé. Et son affaire est compliquée par son conflit avec celui qui s'occupait de ses affaires, José María Mesalles, qui l'accuse de l'avoir escroqué et de l'avoir volé, disons, d'environ 12 millions d'euros de ses biens immobiliers notamment. Donc l'affaire se complique parce qu'il y a un conflit entre Eto'o et son conseiller économique de l'époque. D'ailleurs, la justice veut condamner tous les deux.
À suivre donc. En tout cas, merci beaucoup Alejandro Valente. Le Barça, lui, ne risque rien en tant que club.
Dans certaines affaires, les dirigeants de Barcelone sont également cités à comparaître. Ah oui. Mais comme je vous dis, du côté de Barcelone, on accuse un petit peu les milieux politiques de viser Barcelone, le fait que l'Audiencia Nacional, le parquet, soit dirigé par une femme qui a travaillé pendant plusieurs années avec Florentino Pérez, président du Real Madrid, complique aussi les choses et fait penser à une sorte de main noire qui serait aujourd'hui sur Barcelone afin de pousser ses stars au départ.
Bon, en tout cas, ça fait les choux gras de la presse sportive espagnole.
Oui. Et pas que sportive.
Et parce que sportive, puisque la politique s'y mêle. Merci beaucoup Alejandro Valente, chef du service des sports d'RFI. Amadou, on vous souhaite évidemment une belle journée à Port-Gentil, au Gabon. Nous poursuivons avec vos questions 33 9 693 693 70. On va s'intéresser à la Colombie. Bonjour Adam.
Bonjour Monsieur Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous nous appelez de Ngouri au Tchad, on vous écoute.
Bon, une nouvelle version de l'accord de paix a été signée entre le gouvernement colombien et la guérilla FARC. Est-ce que cette nouvelle version de l'accord de paix prend en compte les objections et les propositions des partisans de Álvaro Uribe? Et pourquoi cette fois-ci l'accord sera ratifié par le Parlement plutôt que par un référendum?
Ah, effectivement, c'est une bonne question. On se souvient qu'au mois d'octobre, au début du mois d'octobre, les Colombiens avaient rejeté par référendum l'accord de paix, accord historique entre le président Santos et le chef des FARC. Bonjour José Dario Rodriguez Cuadros.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de la Colombie, doctorant à l'École des hautes études en sciences sociales. Le premier accord, je le disais à l'instant, avait été rejeté par une petite majorité de Colombiens. Les FARC et le gouvernement s'étaient alors engagés à examiner les revendications de l'opposition, du camp du non. Est-ce que ce nouvel accord prend véritablement en compte toutes les exigences, notamment du président Uribe, de l'ancien président qui avait appelé la population à voter non?
D'accord. Pour répondre à cette question, je crois qu'il faut commencer par dire que, selon les informations officielles, les membres des délégations du gouvernement et des FARC ont reçu à peu près de 500 propositions pour renégocier l'accord de paix après ces résultats négatifs du référendum du 2 octobre. Et ces propositions venaient de plusieurs acteurs parmi lesquels on peut compter les partis politiques de droite, notamment le Parti conservateur et le Centre démocratique, les représentants de quelques organisations des victimes, les délégués de quelques églises chrétiennes, évangéliques et pentecôtistes, et de nombreux citoyens qui se sont prononcés au cours des 60 réunions organisées entre le gouvernement et les opposants de l'accord de paix. Et ces propositions ont été regroupées en 57 grands thèmes qui ont été discutés à La Havane entre les délégués du gouvernement et des FARC. Oui. Alors, la réponse à cette question est oui. Cette nouvelle version prend compte de la majorité de ces propositions, pas de toutes, sauf la dernière proposition qui versait sur l'éligibilité des membres des FARC et dans la vie politique, mais oui, de la grande majorité.
Donc la grande majorité des revendications ont été prises en compte, elles figurent dans ce nouveau texte. L'ancien président Uribe, lui, s'oppose à la nouvelle version de l'accord de paix, notamment à cause du fait que les guérilleros, les chefs guérilleros, ne seront pas condamnés à de lourdes peines de prison avant de faire de la politique. Et c'est ça qui risque peut-être de fragiliser cet accord.
Oui, et c'est là qu'on voit précisément que l'intérêt du président Uribe, et là je peux le dire, c'est pas un intérêt vraiment pour la paix du pays, mais qu'il y a un intérêt derrière tout cela politique. Et c'est l'intérêt des élections présidentielles qui auront lieu dans l'année 2018. Donc, pour rester toujours dans l'opposition, il est en train de s'opposer de cette manière acharnée. C'est le seul point sur lequel il peut vraiment faire une opposition comme ça, mais en pensant aux élections politiques de l'année 2018.
D'accord, donc, il y a sûrement des arrière-pensées politiques, et incontestablement, mais en même temps, l'ex-président Uribe exige un nouveau référendum. Alors, est-ce qu'il va pouvoir l'organiser? Est-ce que c'est possible ou pas? Puisque le président Santos, lui, veut que le texte soit soumis uniquement à la ratification des députés et des sénateurs.
Oui, c'est plus possible de faire de nouveau un référendum, et ça, précisément parce que la possibilité de cette procédure de la ratification de l'accord de paix ou de ce nouvel accord de paix faisait partie des possibilités mentionnées dans une sentence de la Cour constitutionnelle du mois d'août qui réglait précisément le mécanisme de participation du référendum. Et dans cette sentence de la Cour, il est dit que au cas d'un résultat négatif, ce qui était le cas le 2 octobre, il était possible de renégocier l'accord ou même d'en faire un nouvel. Donc, les facultés du président de la République restaient intactes. Et ce que, à mon avis, a joué pour décider de faire passer ce nouvel accord par le biais des parlements, c'est précisément qu'après le résultat du 2 octobre, le cessez-le-feu bilatéral entre le FARC et l'armée nationale était très fragilisé. Bon. Donc il y a eu l'assassinat des militants de la gauche, des leaders politiques, et convoquer un nouveau référendum, ça prenait beaucoup de temps, ça risquait vraiment que les agressions recommençaient, et il me paraît que faire passer ça par le Parlement, c'est tout à fait logique aussi, parce qu'il y aura des lois qu'il faut créer, donc ça doit passer normalement par le Congrès.
Et en même temps, on sait que le président Santos a la majorité au Congrès, donc ça lui permet effectivement d'approuver plus facilement et plus rapidement donc le nouvel accord de paix. Merci beaucoup, José Darius Rodríguez Cuadros. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la Colombie. Adam, bonne journée. Angouri, on va parler maintenant de politique française. On a une question concernant François Fillon. Pierre Firsion du service des sports d'RFI me rejoint à l'instant. Bonjour Pierre.
Bonjour Juan, je suis au service politique.
Au service politique, j'ai dit quoi?
Au service des sports. Oh, bah,
vous y étiez il y a quelques temps. Il y en avait Alejandro Valente il y a quelques minutes. Service des sports, non, évidemment, pour parler de Fillon, c'est forcément le service politique d'RFI. Arfang, bonjour.
Bonjour Juan, comment ça va?
Très bien, merci beaucoup. Vous nous appelez de Dakar, on vous écoute.
Bien sûr, je vous appelle de Richard Paul. En fait, je voulais donner un petit aperçu disant que nous avons franchement besoin d'une émission décentralisée à Dakar ou à Saint-Louis, car il y a pas mal d'auditeurs et réfugiés à appeler sur la terre.
Bon, bah écoutez, on aura peut-être l'occasion de se déplacer à Dakar, à Richard Toll ou à Saint-Louis au Sénégal. Quelles sont vos questions sur François Fillon?
François Fillon, qui incarne une droite conservatrice et libérale, vient de remporter la primaire de la droite haut la main. La victoire de Fillon peut-elle affaiblir le Front National de Marine Le Pen?
Alors, Pierre Firsion, François Fillon est-il susceptible de mordre sur une partie de l'électorat du Front National? En tout cas, on voit bien que depuis quelques jours, depuis dimanche soir, l'extrême droite multiplie les attaques à l'encontre de l'ancien Premier ministre.
Oui, mais c'est vrai qu'à première vue, on peut penser que François Fillon est un adversaire plus gênant pour Marine Le Pen que ne l'aurait été, par exemple, Alain Juppé. Hein, le maire de Bordeaux avait un projet économique, social et sociétal à l'opposé de celui du FN, alors que là, le positionnement du député de Paris est sensiblement différent. Il a, disons-le, un projet plus conservateur, plus à droite que celui d'Alain Juppé sur les questions d'islam, d'immigration, sur l'identité, sur la question des valeurs. François Fillon, on le rappelle, a été activement soutenu pendant cette campagne par Sens Commun, hein, vous vous souvenez, c'est un mouvement opposé au mariage gay. D'ailleurs, le député de Paris, lui, s'est engagé à revenir en partie sur la loi Taubira, pas sur le mariage gay, mais sur l'adoption plénière pour les couples homosexuels. Du coup, bien, sur ces sujets-là, son projet se rapproche de celui de Marine Le Pen. D'ailleurs, on remarque que certaines figures isolées de l'extrême droite avaient appelé à voter pour lui au second tour de la primaire. Donc, on peut se demander si le candidat de droite ne va pas venir mordre, comme vous le disiez, sur une partie de l'électorat FN sensible à ces questions-là. En 2012, ils étaient 63% des électeurs frontistes à se dire attachés aux valeurs traditionnelles. Et puis, en affrontant Alain Juppé, Marine Le Pen imaginait pouvoir attirer à elle des électeurs sarkozystes déçus par le supposé manque de fermeté du maire de Bordeaux. Or là, pour elle, la situation se complique un peu parce que le discours musclé de François Fillon va certainement limiter le départ d'électeurs de droite vers le FN, notamment l'électorat retraité.
En revanche, sur l'économie, Pierre Firsion, le candidat de droite, a peu de chances de venir prendre des voix à Marine Le Pen.
Non, car ce sujet-là, il n'y a pas du tout la moindre convergence entre son projet et celui du FN. Au contraire, même, François Fillon défend un projet très libéral, alors que Marine Le Pen a, elle, un programme social et souverainiste. Le vainqueur de la primaire de la droite veut mettre fin, on le rappelle, aux 35 heures. Il veut supprimer 500 000 fonctionnaires, postes de fonctionnaires en 5 ans, augmenter la TVA. Des propositions en opposition frontale à celle de Marine Le Pen. Et voilà pourquoi, vous le disiez, depuis dimanche soir, le Front National l'attaque violemment là-dessus, en le dépeignant en ultralibéral, en pur produit du système à la solde de Bruxelles.
Jamais aucun candidat n'est allé aussi loin dans la soumission aux exigences ultralibérales de l'Union européenne. C'est ce que déclarait Marine Le Pen dès l'annonce de la victoire de François Fillon. Du coup, sur ce point-là, Pierre Firsion, c'est plutôt un bon adversaire pour Marine Le Pen ?
Oui, parce que comme l'expliquait le chercheur Jean-Yves Camus, le cœur de l'électorat frontiste est très sensible à la question économique. Vous savez, le FN attire une partie du vote populaire, hein, les ouvriers, les employés, les citoyens directement touchés par la crise. Nicolas Sarkozy parvenait lui aussi à mobiliser cet électorat-là, en mettant notamment en avant la valeur du travail. Ce qu'aura sans doute du mal à faire François Fillon avec son programme très libéral. Et puis, les électeurs frontistes expriment souvent leur volonté de renouveau en choisissant un parti qui n'a jamais gouverné. Or, le député de Paris a été le Premier ministre de Nicolas Sarkozy de 2007 à 2012. Il a été ministre dans nombre de gouvernements depuis 20 ans. Autant dire que son côté professionnel de la politique n'est pas fait pour séduire une partie de l'électorat frontiste.
Donc, au final, si je comprends bien, il n'est pas sûr que François Fillon parvienne réellement à affaiblir le Front National.
Oui, même si la candidature du député de Paris pourrait créer des tensions internes au FN. Vous savez, au sein du parti d'extrême droite, il y a deux lignes. D'un côté, celle de Marine Le Pen et de Florian Philippot, une ligne que l'on dit souverainiste et sociale, qui donne la priorité à la question économique. Et puis une seconde ligne, défendue par Marion Maréchal Le Pen, plus identitaire et surtout plus libérale en économie. Or, ces deux tendances s'affrontent depuis des années, notamment sur la sortie de l'UE. Et du coup, en mettant surtout en avant les sujets économiques durant cette campagne, le FN prend le risque de voir ces deux tendances s'affronter à nouveau.
Donc le Front National divisé sur le programme économique.
Ah, ça fait longtemps.
Ça fait longtemps, effectivement. Merci beaucoup, Pierre Firsion, du service politique d'RFI. On a répondu à vos questions, Arfang.
Bien sûr, avec plaisir.
Bonne journée à Dakar. Vous êtes nombreux à écouter RFI sur les 92 FM. À suivre, dans un peu plus de 10 minutes maintenant, notre débat sur Yahya Jammeh. Il brigue demain un cinquième mandat. Cela fait maintenant 22 ans qu'il dirige la Gambie. Il est à la tête de ce pays qu'il dirige donc depuis 1994. Il est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Il a été élu une première fois en 96, réélu depuis trois fois. Il n'y a aucun doute qu'il sera réélu une quatrième fois demain. Les Gambiens sont appelés à voter. Il y a en tout trois candidats. Tous les regards sont tournés évidemment vers le candidat de l'opposition. Pour une fois, l'opposition a réussi à s'entendre sur une seule candidature, mais il ne fait aucun doute que Yahya Jammeh remportera ce scrutin. Yahya Jammeh, connu à travers le monde pour ses frasques, il affirme depuis plusieurs années guérir le sida. Il multiplie les propos homophobes. Il a d'ailleurs récemment annoncé le retrait de son pays de la Cour pénale internationale. On a envie de vous entendre justement sur cette personnalité. Quelle image avez-vous de Yahya Jammeh ? Alors sur Facebook, les réactions sont très partagées. Par exemple, Amadou nous dit, on lui reproche d'être un dictateur sanguinaire, mais il est le seul sur le continent africain avec Robert Mugabe à oser dire non à l'ingérence extérieure et à défendre le continent à l'échelle internationale. C'est pour cela que les Occidentaux s'acharnent contre lui. Partagez-vous ce point de vue, cette analyse. On vous attend 33 9 693 693 70 et vous continuez également à poster vos commentaires sur les réseaux sociaux et sur la page Facebook de l'émission. On se retrouve donc dans 10 minutes. À tout de suite.
C'était Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, solution de transfert d'argent accessible depuis votre mobile au dièse 144 dièse. Le ministère de la